Señor. Aleluya. Oh, gloire au Seigneur. Je voudrais que nous demeurions dans cette pensée de l'abandon de notre vie entre les mains du Seigneur. Celui qui nous l'a prêté, et pour que cette vie soit véritablement une vie à la gloire et à la louange de son nom, une vie qui soit pleinement épanouie et heureuse, il faut qu'elle apprenne à s'abandonner entre les mains du Créateur. Alors que ça ne soit pas simplement les paroles d'un chant, mais que ça soit toute une prière que nous adressons au Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ma vie. Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne moi-même. Tout ce que j'appelle mien, tout ce qui m'appartient, eh bien, je te l'abandonne. Afin que toi, tu restes en tout et pour tout, le seul maître de ma vie. Le seul Seigneur aux commandes de ma vie. Alléluia. Seigneur, nous venons de le chanter, plus que les paroles d'un chant ou d'un refrain. Nous voulons véritablement faire, Seigneur, une prière. Nous voulons, Seigneur, que les paroles de ce chant deviennent une réalité, fassent corps avec notre vie. Que nous apprenions, ô Dieu, à t'abandonner notre vie entre tes mains. C'est alors que nous pourrions en jouir pleinement. Merci pour ce temps passé, ô Dieu, dans ta présence, à te louer, à t'encenser avec notre louange, avec notre adoration. Merci pour cette opportunité merveilleuse, Seigneur, que nous avons eue, ô Dieu, d'entrer dans ta présence avec des cris de joie, avec des acclamations. Seigneur, d'entrer dans ta présence avec reconnaissance. Merci, Jésus, pour tout. Merci, Maître. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus à ta rencontre. Et nous voulons vraiment que de cette rencontre, Seigneur, quelque chose se passe. Nous sommes venus, ô Dieu, non pas par habitude, non pas, Seigneur, pour observer une tradition, quelle qu'elle soit. Nous sommes venus par besoin. Car nous savons, Seigneur, que tous les dimanches, tu nous attends dans ces lieux pour nous rencontrer, Seigneur, dans nos préoccupations, quelles qu'elles soient, pour nous rencontrer dans nos besoins, quels qu'ils soient. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous reconnaissons que notre vie est appelée à dépendre totalement et entièrement de toi. Nous sommes dans ces lieux parce que nous avons réalisé, Seigneur, que nous sommes des créatures que tu as faite à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes venus parce que nous savons, Seigneur, que notre présence sur cette terre n'est pas le produit du hasard, mais plutôt, Seigneur, un acte souverain que toi tu as posé en ayant permis que nous voyions le jour. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, nous taire et te donner toute notre attention afin que tu nous parles. Que ta parole soit cette lumière qui va nous éclairer, qui va réveiller certaines consciences endormies. Que cette parole soit vie et esprit pour aller rencontrer ceux qui sont dans la mort spirituelle et morale. Que cette parole soit guérison pour les corps malades, les corps fragilisés par tel ou tel autre élément pathogène. Que ta parole ce matin soit, Seigneur, comme ce marteau puissant qui va briser des cœurs endurcis, des cœurs cautérisés par le mal. Oui, que ta parole soit comme cette rosée d'en haut qui va rafraîchir tout notre être et nous communiquer la vie d'en haut, celle dont nous avons besoin. Bénis ton serviteur et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes venus ce matin pour rencontrer le Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour assister à un spectacle. Pas du tout. Que le Seigneur nous garde de vouloir introduire du sensationnalisme dans nos cultes. Nous voulons qu'à chaque fois que les gens viennent, à chaque fois que nous venons dans ces lieux, que nous ayons une seule pensée, une seule motivation, rencontrer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je vais parler d'un thème important. Un thème qui nous montre ce que le Seigneur attend de tout homme, quel qu'il soit, où qu'il vive, et quelle que soit la culture dans laquelle il évolue. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Prépare-toi à la rencontre de Dieu ». Amen. Prépare-toi à la rencontre de celui qui t'a créé, celui qui t'a prêté très généreusement son souffle de vie qui t'anime, celui qui a fait que tu sois ce que tu es, même si tu ne l'as jamais reconnu. Mais ce matin, je voudrais m'adresser à chacun de nous. Et au-delà de tous ceux qui sont ici à la borne, m'adresser à tous ceux qui nous suivent. Que le moment est arrivé où chacun doit considérer très attentivement sa vie pour voir s'il est prêt à rencontrer le Seigneur en ce jour-là. Et notre texte de ce matin est donc tiré du livre du prophète Amos, au chapitre 4, où justement Amos va être amené par le Seigneur à proclamer ce message, message adressé à Israël et qui, à ce moment-là, pataugé dans l'impénitence, s'était retrouvé avec une religion formaliste. Tout en ayant reçu la parole de Dieu, Israël a négligé, sous l'influence d'autres cultures païennes, eh bien, Israël s'était refroidi dans son engagement vis-à-vis de Dieu, vivait de manière insouciante jusqu'à ce que cette parole retentisse, jusqu'à ce que Dieu suscite son prophète et qu'il envoie vers son peuple et qu'il lui dise ceci, Amos chapitre 4, verset 12 à 13. C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, puisque cela doit absolument arriver, alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui forme les montagnes et qui crée le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Son nom est Seigneur et Adonai, le Dieu des armées. Amen. Gloire au Seigneur. Prépare-toi, qui que tu sois, à la rencontre du Créateur. La vie de l'homme est faite de rencontres de tout genre. N'est-ce pas? Il y a des rencontres qui sont fortuites, c'est-à-dire qui arrivent de manière hasardeuse, de manière imprévue, de manière inattendue, et qui peuvent s'avérer être fatales, ou alors qui peuvent être une véritable bénédiction pour nous, mais des rencontres qu'on n'avait pas prévues. Vous voyez? Des rencontres qui sont là, mais il y en a d'autres en revanche, qui sont des rencontres planifiées et qui demandent donc une préparation selon l'importance de la personne à rencontrer. On se prépare en conséquence parce qu'on sait qu'on va aller à la rencontre de quelqu'un. Et si nous avons l'opportunité ou l'occasion de rencontrer une personnalité importantissime, quelle qu'elle soit, une personne élevée en dignité comme un chef d'État, comme un prince, comme un roi, comme un ministre, comme un parlementaire, eh bien, nous nous préparons en conséquence, n'est-ce pas? Nous n'allons pas débarquer chez le chef de l'État en tong ou en babouche, hein, avec un petit t-shirt troué, juste après son jogging du matin. Et puis on débarque et dit, voilà, monsieur le président, j'ai appris que je devais vous rencontrer, en train de transpirer. Il y a donc une préparation. Selon, mes amis, la qualité, la dignité, le statut de la personne à rencontrer. Allez donc à la rencontre d'une autorité, d'une personne qui est élevée en dignité, se trouver dans sa présence, entrer en relation avec elle, suppose qu'on s'y est préparé à l'avance, au préalable. Et ce matin, je veux parler de la plus grande rencontre qui soit, et qui demande de la part de l'homme une préparation sérieuse et conséquente. Car dans ce domaine, il n'y a pas de place à l'inconséquence, à la légèreté. Pas du tout, mes amis. Car il y va de l'éternité de tout homme. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tout homme est appelé, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, quelles que soient ses convictions philosophiques ou autres, tout homme est appelé un jour à rencontrer son Créateur. Et par rapport à cette rencontre, mon frère et ma sœur, et toi qui es là ce matin, et toi qui me suis à la télé, et par rapport à cette rencontre, je veux dire, eh bien, Dieu veut que tu te prépares. Dieu, que tu prennes au sérieux cette rencontre. Car ça ne sera pas une rencontre fortuite. Non. Il attend l'homme à qui il a prêté son souffle de vie pour qu'il lui rende des comptes. Il attend l'homme pour qu'il vienne et qu'il lui dise comment il aura géré la vie qu'il lui avait très généreusement, très gracieusement prêtée. L'homme n'a pas de choix par rapport à l'éternité. Tôt ou tard, et quel que soit notre arrière-plan religieux ou autre, mes amis, tôt ou tard, il faudra bien quitter cette terre à laquelle nous sommes tant attachés pour passer dans l'éternité. Et c'est là que le compte à rebours commencera. Voilà pourquoi, frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, voilà pourquoi le Seigneur nous demande, nous exhorte à nous préparer sérieusement, absolument, en vue de cette rencontre qui nous attend, rencontre celui qui aura tout fait pour nous et lui rendre des comptes quant à la manière dont nous aurons vécu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tel est donc le message que le Seigneur adresse à tout homme. Et c'est justement pour permettre à l'homme de se préparer à rencontrer son Créateur, que Jésus est venu sur cette terre, que Jésus a approché l'homme perdu et a payé le prix à sa place, afin que cet homme perdu, cet homme vendu au péché, cet homme esclave du mal, puisse enfin avoir l'occasion de se réconcilier avec son Créateur et de se préparer à le rencontrer dans l'au-delà. Mes amis, tout ne s'arrête pas à la tombe, comme vous le savez, comme nous allons le voir. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent, ont fait le choix de vivre comme si Dieu n'existait pas. Ils essayent d'échapper d'une manière ou d'une autre à l'éternité. Ils cherchent à fuir cette réalité terrible pour les uns, mais merveilleuse pour d'autres, que rencontrer Dieu dans l'éternité. Certains essayent de se réfugier dans une vie d'imagination, selon leurs convictions, au lieu de regarder en face la réalité du péché et ses conséquences terribles, au lieu de regarder en face la faillite de leur vie et réaliser le besoin de se mettre en règle avec Dieu, beaucoup tentent de se cacher dans un monde irréel et illusoire. Voyez-vous? Et pourtant, Et pourtant, la Bible est claire. Il nous dit qu'aucun homme ne pourra échapper à l'éternité. C'est justement pour permettre à l'homme de savoir qu'il n'est plus qu'une chenille. Il est plus qu'un animal, quel qu'il soit. C'est justement pour permettre à l'homme de réaliser que son voyage commence ici-bas, mais se poursuit dans l'éternité, qu'il a placé dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Pour rappeler à l'homme que cette vie qui a commencé dans le temps se poursuivra, qu'il le veuille ou pas, dans l'éternité. Il y a une vie outre-tombe. Tout ne s'arrête pas à la tombe, comme certaines philosophies d'inspiration matérialiste essayent de faire croire aux uns aux autres. Tout ne s'arrête pas à la tombe, frères et sœurs. Nous avons une destinée. Nous avons un destin. Tout se poursuit outre-tombe. Et c'est maintenant que l'homme doit se préparer. Car il n'y a pas de préparation post-mortem. Une fois que l'âme quitte ce corps et passe dans l'éternité, c'est trop tard. On pourra faire toutes sortes de choses après que l'homme soit parti. Tout ce qu'on pourra faire pourra, d'une manière ou d'une autre, apporter un certain réconfort, une certaine consolation à la famille restée. Mais croyez-moi, cela n'aura aucun impact sur le destin de celui qui sera parti. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui vous plaisent. Je n'ai aucune possibilité de brader la parole de Dieu. Je sais que c'est des choses dures, mais nous n'avons pas de choix que d'être l'écho de la parole de Dieu. Personne n'y échappera. C'est ainsi que la Bible nous rappelle que, ô homme, ô femme, sache que ton péché t'atteindra. Si tu ne déposes pas maintenant, dans le temps, ce péché au pied de la croix, tu as beau choisir d'oublier, tu as beau te confectionner une vie remplie d'imagination, mais tôt ou tard, il faudra bien que tu sortes de cette coquille et que tu affrontes la terrible réalité. Alors, sois attentif à ce message. Prépare-toi à le rencontrer. Pendant des siècles, à travers tous les âges, les hommes ont tenté d'échapper aux réalités de la vie. Les hommes ont tenté de se soustraire à leurs responsabilités à l'égard du Seigneur, à l'égard du Créateur. Ils ont essayé d'une manière ou d'une autre. Et ça a toujours été, mes amis, la ruse du diable. D'essayer de distraire l'homme. D'essayer de l'occuper pour qu'il n'ait pas le temps de penser à son éternité. D'essayer de le mettre devant toutes sortes de choses illusoires. Pour le séduire, pour le berner. Pour l'éloigner de cette vision. Le faire croire, après tout, il n'y a rien. Voyez-vous, vous êtes né, puis un jour vous mourrez, puis tout s'arrête là. Le diable, dans sa ruse et dans sa séduction, cherche donc à faire trouver aux uns aux autres la satisfaction dans des choses qui sont éphémères et passagères, dans des choses factices. Alors comment le diable se prend-il pour essayer de distraire le gens? Comment le diable, dans sa ruse, arrive-t-il, mes amis, à aveugler le gens au point où il ne se soucie plus de leur éternité? Regardez autour de vous. Combien trouvent encore du plaisir à mener une vie de débauche? Voyez-vous? Combien ont choisi l'idolâtrie? Combien ne vivent que pour le plaisir éphémère et factice de ce monde? Comment le diable cherche à distraire le gens? Vous pouvez trouver beaucoup de choses que le diable a mis en place, beaucoup de choses qu'il a fabriquées dans le seul but de distraire l'homme de son éternité. Car il sait, mes amis, mieux que quiconque, que si quelqu'un meurt sans avoir rencontré le Seigneur, il est perdu pour l'éternité. Voyez-vous? C'est une vérité terrible, car beaucoup se réfugient dans des choses que le monde offre, pensant qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils sont sur le chemin de la condamnation et de la ruine éternelle. La première chose que les gens font pour fuir cette réalité de Dieu, eh bien, c'est qu'ils essayent de le faire dans leur imagination. Ils se créent un monde imaginaire dans lequel, eh bien, Dieu n'existe pas. Vous voyez? Il y a des gens qui ont choisi de croire que nous sommes le produit du hasard, qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a rien du tout, ni ciel, ni enfer, et par conséquent, Dieu n'existe pas du tout dans leur imagination. Vous voyez? Et ils ont développé toutes sortes de convictions qui ont abouti à une vision de la vie qui a évacué Dieu, qui a évacué le ciel, l'enfer, le jugement, la condamnation. C'est ainsi qu'un athée notoire, en son temps, il avait dit ceci, il dit, mais il s'étonnait un peu qu'avec tous les progrès que la science était en train de faire, et ce, dans tous les domaines, il ne comprenait pas qu'il y a encore des gens qui croient, et surtout les chrétiens. Alors il dit, mais les gens n'ont pas encore compris que la science moderne a dissous le christianisme dans un bain d'acide nitrique. Beaucoup sont convaincus que Dieu n'existe pas. Ils sont enclins à une vie imaginative incroyable. Vous voyez, Dieu n'existe pas. Voilà, nous sommes le produit du hasard. Nous sommes partis de rien, comme ça. Vous voyez, la vie est apparue, vous savez, il y a toutes sortes de théories par rapport à tout ça. Mais toujours est-il que beaucoup ont développé cette vision de la vie où l'enfer est inexistant, où le ciel n'existe pas non plus, Dieu, rien du tout. Il n'y a que eux qui sont au centre de l'univers. Voyez-vous? Ils sont convaincus dans leur imagination qu'il n'y a rien après la tombe, que l'homme disparaît pour toujours. Voyez-vous? Il retourne à la poussière. Et puis on n'en parle plus. Il y en a qui disent, mais si Dieu existait, pourquoi il y a la misère? Pourquoi il y a tant, il y a la famine? Pourquoi toutes ces calamités naturelles? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi ces viols? Pourquoi ce meurtre? Pourquoi ces hostilités entre les nations? Comment pourriez-vous croire un seul instant qu'il y ait un Dieu d'amour et qu'il laisse autant le monde entre les mains des prédateurs de tous bords, entre les mains des criminels, entre les mains des corrompus? Alors, après moult observations par rapport à tout ça, il tire la conclusion que Dieu n'existe pas. Autrement, il n'y aurait pas eu tout ça. Parce qu'il y a la guerre ou des guerres, parce qu'il y a des tremblements de terre, parce qu'il y a les enfants qui souffrent, parce qu'il y a toutes sortes de massacres, de génocides qui sont commis un peu partout, eh bien, cela suffit pour postuler que Dieu n'existe pas du tout. Dans leur imagination et sous l'influence de toutes sortes de modes de pensée, ces gens sont arrivés à la conclusion que Dieu n'existe pas. Ça, c'est une des fuites, mes amis, que l'ennemi propose à l'homme. C'est l'amener à ne pas croire en un Dieu créateur à qui il aura un jour à rendre compte. C'est ainsi qu'ils disent, puisqu'il n'y a ni ciel, ni enfer, alors mangeons-en, parce que demain nous mourrons. Pensant que la mort met un terme à l'existence, pas du tout. C'est d'ailleurs là que la vraie existence commence. Car tant que nous sommes dans ce corps, nous pouvons opter pour l'hypocrisie. Tant que nous sommes dans ce corps, eh bien nous pouvons vivre d'une manière ou d'une autre. Mais la vraie vie, c'est lorsque nous quittons ce corps, le masque tombe. Ce que nous sommes réellement, eh bien, passe de l'autre côté. Donc la première fuite, c'est de faire croire aux gens que Dieu n'existe pas. Et encore aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes à travers le monde sont convaincus que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de ciel, qu'il n'y a pas d'enfer, eh bien que tout s'arrêtera un jour à la tombe. Et par conséquent, eh bien, que chacun mène sa vie comme il entend. Que chacun écoute simplement son corps. Et c'est ainsi qu'on arrive à des débordements, à des pratiques contre nature, à peine imaginables. À des choses qui avilissent l'homme. La deuxième chose, la deuxième fuite, ou la deuxième échappatoire, pour fuir la réalité de Dieu et de l'éternité, eh bien, c'est le plaisir. Et le plaisir a toujours été la plus vieille échappatoire de l'humanité. Voyez-vous, pour fuir cette réalité de Dieu, on se tourne vers le plaisir. Et comme Épicure est passé par là, eh bien, ça y est, le plaisir devient le but ultime de la vie. Il faut se faire plaisir à tout prix. Voyez-vous? Même s'il faut mépriser les convenances sociales, mépriser les lois, l'éthique, la morale, mais pour autant que cela vous fasse plaisir. Et ça, c'est ce qu'on entend un peu partout, n'est-ce pas? Fais-toi plaisir. Et le diable a formé toutes sortes de psychologues, toutes sortes d'assistants sociaux un peu partout, qui encouragent les gens à écouter simplement le langage de leur corps. Si tu trouves que l'homme que tu as épousé, eh bien, ne rencontre plus tes besoins, il n'est plus l'homme que tu as aimé, mais écoute ton corps, change, va chercher un jeune homme quelque part. Lui, il est courroulant, il est amorti. Il ne vaut plus rien. Voyez-vous, le plaisir. Pour l'homme, c'est la même chose. Abandonne ta femme. Ou alors, mais écoute, tu peux en prendre deux, tu peux en prendre trois. Du moment où ta femme n'est pas au courant, eh bien, c'est pas important. Le plaisir, échappatoire. Une façon de s'éloigner, de s'évader. Loin de la réalité et de nos responsabilités vis-à-vis de Dieu. Oublions, mes amis, que tôt ou tard, nous rendrons de compte à Dieu. C'est ce qui est terrible. Qu'on soit athée, qu'on ne le soit pas. Qu'on soit hédoniste, épicurien, que sais-je, rationaliste, cartésien. Qui qu'on soit, tôt ou tard, on devra rendre de compte à Dieu. Voyez-vous? On cherche à se réfugier dans les plaisirs, ces plaisirs éphémères et factices que l'ennemi nous propose. Ainsi nos âmes malheureuses et déçues errent comme des bêtes féroces dans cette jungle de plaisirs, de faux plaisirs, qui ne rendent pas l'homme heureux. Combien aujourd'hui le payent très cher dans leur corps? Pour s'être laissé conduire uniquement par leurs instincts naturels, charnels. Aujourd'hui, beaucoup sont malades. Aujourd'hui, beaucoup le payent très cher. Car on finit toujours par récolter ce qu'on a semé, tôt ou tard. Voyez-vous, le plaisir. C'est ainsi que beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles se tournent vers l'alcool, qui est de plus en plus dans nos sociétés un véritable lubrifiant social. Certains s'adonnent à la drogue et vivent dans un monde irréel. L'Occident est confronté à ce problème de consommation des psychotropes, des narcotiques et de tous ces produits-là. On a tout fait. On a essayé de durcir la loi, mais rien du tout. Voyez-vous? Et certains pays ont fini par légaliser la consommation des plantes hallucinogènes comme le cannabis. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas étonnant. La plupart de ceux qui aujourd'hui sont aux responsabilités en Occident, ce sont les hippies des années 70 et 80. Certains marchaient nus. Donc ce n'est pas étonnant. Ils ont consommé tout au long de leur vie ce genre de produits. Et aujourd'hui, ils se disent, mais écoutez, essayons simplement d'encadrer ceux qui en consomment. C'est ainsi quand vous irez en Europe, enfin vous allez en Europe, il y a des pays qui ont légalisé cela. Mais ils ont prévu de coins. Vous allez en Hollande, ben, vous trouverez des villes où on vend ce produit-là. Vous donnez votre carte, on vous donne le marijuana, vous tirez. Les gens cherchent désespérément à fuir dans le plaisir. Oui, le plaisir peut te donner, te communiquer un sentiment de contentement. Voyez-vous? Oui, le plaisir peut t'amener jusqu'à un certain point. Te faire croire que tu es arrivé au sommet du bonheur. Jusqu'au jour où tu réalises que tout cela était simplement une illusion. Le diable, mes amis, est très rusé. C'est un expert dans l'art de nous vendre l'irréel et l'illusoire. Voyez-vous? Regardez comment il a eu Ève. À partir d'une parole reçue de la part de Dieu, il a fini par semer le doute dans sa tête. Dieu a-t-il vraiment dit? Il n'est pas venu comme ça, écoutez, Dieu n'existe pas. Ben, il savait très bien que Ève ne lui aurait même pas donné la moindre attention. Dieu n'existe pas et pourtant, celui qui nous a tout était clair. Mais il est venu de manière sournoise et subtile. Il a fini par inoculer son poison dans la femme. Il nous vend l'irréel. Il nous amène à nous créer un monde de rêves où il n'y a ni péché, où il n'y a ni culpabilité, voyez-vous. On doit être simplement en harmonie avec son corps. Ouais. Il nous offre, mais ces choses-là finiront toujours par nous décevoir. Voyez, c'est comme l'histoire de cet homme qui voyageait dans un pays aride, sous un soleil de plomb. Après plusieurs heures de marche, cet homme est fatigué, cet homme a soif, et puis il s'est mis à chercher de l'eau pour étancher sa soif. Il monta sur une colline, et puis de la colline, il scruta l'horizon, et il vit au loin un lac. La vue de ce lac le remplit de joie. Il s'est dit, enfin, je vais devoir étancher ma soif. Le voilà qui redescend la colline et qui se met à marcher en direction de ce lac. Il marcha pendant des heures sans trouver ce lac. C'est alors qu'il comprit que ce qui lui était apparu comme un lac n'était en réalité qu'un mirage. Voyez-vous? Une apparence trompeuse due à la réfraction des rayons du soleil. Hein? Au loin, vous avez l'impression que c'est un étang d'eau. Vous avez l'impression que c'est un lac. Et beaucoup, mes amis, sont tombés dans ce piège. L'ennemi a présenté la fortune comme étant le lieu où l'homme peut trouver enfin l'eau qui étancherait sa soif. L'ennemi a présenté le plaisir, quel qu'il soit, comme un lac, mes amis, où il pourrait trouver son bonheur. Et beaucoup se sont levés et se sont mis à courir après ce lac imaginaire. Certains ont eu la grâce de se rendre compte que ce n'était qu'un mirage. Et puis ils se sont tournés vers celui qui donne la vraie eau qui étanche la soif pour l'éternité. Le seul qui puisse combler l'âme humaine, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, le plaisir, encore aujourd'hui, le plaisir est un moyen de fuite, est une échappatoire. Voyez? Combien n'ont pas pu venir aux réunions parce que le foot est passé par là. Le vendredi, nous avons eu une réunion extraordinaire. Je peux vous assurer, ce n'est pas pour vous mettre l'eau à la bouche, du moins à la bouche de ceux qui n'étaient pas là, mais le vendredi, comme je l'avais annoncé, nous avons eu des moments extraordinaires. Le Seigneur a été vraiment au rendez-vous. Nous avons vécu la Pentecôte. Alléluia. Beaucoup peuvent le témoigner. Le diable nous distrait d'une manière ou d'une autre, fuite, pour ne pas voir la réalité en face. Voyez-vous, comme on dit, la politique de l'autruche, on met la tête dans le sable pour ne pas voir le danger, pour ne pas voir le problème. Mais ce n'est pas une bonne manière d'agir, mes amis. Autant se mettre face à la réalité et se dire, voilà, la réalité est là, que dois-je faire pour l'assumer. Un autre moyen pour essayer de distraire les gens, un autre moyen de séduction, un moyen d'aveuglement que le diable utilise, un autre échappatoire, eh bien, c'est le suicide. Oh oui, le suicide, qui est devenu et qui est un véritable fléau pour certains pays d'Occident. J'étais dernièrement à la convention organisée par les Assemblées de Dieu de Belgique, et l'orateur principal, c'était donc le pasteur Claude Houd. Et il nous a dit ceci, que le Québec, la province du Québec, la région francophone du Canada, eh bien, a un triste record. C'est celui de détenir le nombre le plus élevé de suicides parmi les adolescents. Vous vous rendez compte? Parmi les adolescents. Le suicide. Ce n'est pas étonnant, puisque certaines sociétés occidentales ont même légalisé le suicide. Ah oui, en utilisant simplement un terme un peu technique, euthanasie. Bonne mort, littéralement. Euthanatos. Bonne mort. En quoi elle est bonne? Ainsi, on aide les gens à se suicider. Vous souffrez, ça ne va pas, vous demandez au médecin, il vient, il vous injecte je ne sais quel poison, ah ben c'est fini. Mais tout ça, ça va à l'encontre du serment que le médecin fait, d'Hippocrate, oui ou non. Le suicide. Beaucoup pensent, ils sont convaincus que le suicide mettra fin à leurs problèmes. Ils ont des dettes, ils n'arrivent pas à payer ces dettes, ils ne savent plus quoi faire, la pression est grande, l'ennemi vient. Dis, mais pourquoi tu te laisses torturer comme ça? Pourquoi tu souffres autant? Mais fais la vie. Tu vas aller te reposer en paix. Mais fais à ta vie. Après tout, que tu meurs aujourd'hui par toi-même ou quelqu'un d'autre te tue, ben, tu vas mourir de toute façon. Après tout, que tu meurs à cet âge alors que tu es encore ado, que tu meurs à l'âge adulte, après tout, c'est quoi? L'ennemi arrive, mes amis, à influencer les gens, à leur faire prendre conscience, une fausse conscience, que le suicide, mettre fin à sa vie, eh bien, est une manière ultime de résoudre un problème. Mes amis, si par le suicide, on peut arriver à détruire ce corps, on peut utiliser un pistolet, un revolver, on peut utiliser une corde, voyez, on peut utiliser un poison, peu importe. Si tout ça peut mettre fin, tuer ce corps, mais cela ne mettra jamais fin à l'existence humaine. L'existence se poursuit outre-tombe. C'est une distraction terrible, mon frère, ma sœur. Et toi qui me suis ce matin, peut-être que tu es là devant ton poste téléviseur, avec des idées suicidaires. Tu penses mettre fin à ta vie? Arrête! Le suicide n'est pas la solution. C'est même la pire des solutions. Parce que le suicide met fin à toute possibilité de se mettre en règle avec Dieu. Car la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de salut post-mortem. Vous ne pouvez pas être sauvé après votre mort, sur intercession, je ne sais de quel pasteur, de quel évêque, de quel imam, de quel prêtre orthodoxe ou je ne sais de qui. Lorsque la personne s'en va, son sort se trouve désormais entre les mains du Créateur. Il n'y a rien que nous puissions faire, nous le vivant, qui puisse avoir un impact quelconque sur le sort de ceux qui sont partis. Vous devez savoir, frères et sœurs, que dans 1000 ans, dans 2000 ans, eh bien, vous serez aussi vivants que vous l'êtes maintenant. Oui, oui. À la mort, le corps retourne seulement à la poussière. Et l'âme passe dans l'éternité. Et c'est là, mes amis, que le chant sérieux commence. Voilà pourquoi le Seigneur demande à tout homme de se préparer à le rencontrer. Et enfin, le dernier moyen de fuite, une autre échappatoire, un autre mécanisme, une possibilité que le diable met à la disposition de l'homme, c'est la religion et l'expérience mystique. Eh oui. S'il y a des gens qui se droguent et boivent pour noyer leur chagrin, pour essayer un peu de fuir la réalité de la mort, du péché, la réalité quant à leur responsabilité vis-à-vis de Dieu, eh bien d'autres se tournent vers la religion ou vers des expériences mystiques de tout genre. Tout cela dans la même intention de fuir leurs angoisses. Tout cela pour essayer un peu d'être, entre guillemets, en règle avec le Créateur. C'est ainsi que l'ennemi, qui est expert dans l'art de nous vendre le faux, expert en contrefaçon, a donc inspiré toutes sortes de religions. Et je vous dirais que le monde de la religion est un monde qui prospère, qui n'a jamais fait faillite. Vous savez ça? Ah oui. Le monde financier est arrivé à connaître toutes sortes de crises. Voyez? Mais le monde de religion, ou de la religion, est un milieu qui prospère. Rien que dans ce pays, notre pays, la RDC, essayez un peu de faire un tour pour voir le nombre de religions qu'il y a. Qu'elles soient monothéistes, qu'elles soient polythéistes. Mes amis, la religion, quelle qu'elle soit, reste un moyen pour le diable de distraire l'homme, de l'empêcher à se préparer véritablement à rencontrer son Créateur dans l'au-delà. Et beaucoup se contentent d'une certaine apparence religieuse, d'un certain vernis de piété. Non, cela est incapable, ce vernis-là, cette piété est incapable de pouvoir vous permettre d'aller rencontrer le Seigneur comme sauveur. Et ce qui est terrible avec la religion, comme le frère, je me souviens encore, Clendenen l'a dit, il avait prêché dans, ici, il y a presque 30 ans, il avait dit ceci un soir, il dit, mieux vaut ne pas avoir de religion que d'en avoir une qui te trompe. Il avait raison. Voyez-vous, combien d'hommes et de femmes sont convaincus que leur religion est la meilleure? Alors ils passent tout leur temps à essayer de défendre leur religion, à dire qu'ils sont 100%. Ils passent leur temps à défendre leur prophète, à se dire, ah oui, mais il y a autant de milliards de nos co-religionnaires sur cette terre, donc nous sommes la plus grande religion et par conséquent la seule religion. Karl Marx, à son temps, évidemment c'était dans un autre contexte, avait raison de dire que la religion est l'opium du peuple. Voyez-vous? Elle endort la conscience de l'homme. Combien sont convaincus qu'ils iront au ciel simplement parce que dans leur famille, il y a un évêque, il y a un pasteur. Combien sont convaincus qu'ils iront au ciel parce qu'ils sont nés dans un milieu religieux? Mes amis, le ciel ne peut pas être acquis par la religiosité, par les œuvres quelles qu'elles soient. Le ciel est un don gratuit que le Seigneur donne à l'homme. Gloire à Dieu. La religion, elle endort la conscience. Elle a les mêmes effets sur l'homme que l'opium. Sur le mental. Elle a les mêmes effets. C'est un soporifique. Passez-moi l'expression. De la conscience. Elle endort la conscience. Voyez? Ainsi, la personne vit en osmose avec sa religion et est convaincue. Voyez? Est convaincue que sa religion est la bonne. Beaucoup ont même démissionné. Ils ont confié leur âme au pasteur, au prêtre, au curé, tout ce que vous voulez. Non, 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 moi, vous savez, moi, j'envoie mon argent. Mon oncle, qui est bishop, prie tout le temps pour moi. Voilà. Je sais que Dieu entend beaucoup. On trompe les gens. Je me souviens, et ça m'avait révolté, avoir parlé avec une dame. Son mari était décédé et un religieux lui avait fait croire qu'il continuait à intercéder pour lui. C'est la dame qui m'avait dit. Il m'a dit, une fois, elle m'a dit, écoutez, il faut donner l'argent comme ça pour intercéder. Il est au purgatoire, mais il ne veut pas sortir. Mais ça prête à sourire, mais c'est quelque chose de terrible. Il dit, il faut que je multiplie la prière pour le faire sortir du purgatoire. Il dit, il s'y plaît. Un autre, j'ai beaucoup d'anecdotes comme ça. Un autre, son mari meurt, c'était un marchand de légumes. Et on lui fait croire que, bon, ce n'était pas un problème, son mari continue à vendre les légumes là, au ciel. Et la pauvre vivait avec cette fausse espérance. Comme ils avaient été marchands de légumes, voyez-vous, très connus dans les villages, dans leur village et dans les villages avoisinants, donc elle allait continuer son activité, mes amis. C'est terrible. Le diable utilise la religion pour essayer de distraire les gens, pour essayer d'échapper à la réalité de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut, par sa religion, mes amis, entrer dans une relation avec le Créateur. La religion a un protocole. Eh bien, vous pouvez vivre selon le protocole de votre religion. Dieu n'a que faire de ce protocole. La religion est incapable de vous prendre, de vous introduire dans une relation qui vous permette d'être avec Dieu maintenant, et puis un jour de le rencontrer comme Père, là au ciel. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, ne t'accroche pas à ta religion. Voyez, ce n'est pas ta religion qui te mettra en règle avec ton éternité. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il y avait beaucoup de religions, oui ou non? Il y avait beaucoup de religions. Et pourtant, il a dit à ceux qui croyaient, même en un seul Dieu, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Aucune religion ne peut libérer l'homme de la pesanteur du péché. Aucune religion, mes amis, n'est capable de faire une échelle qui prenne l'homme et qui lui permette d'aller jusqu'au ciel. C'est ainsi que dans la vision de Jacob, l'échelle n'est pas partie du sol, mais plutôt dans cette vision, l'échelle est descendue du ciel. Et cette échelle est une personne, Jésus de Nazareth. Jésus est une personne et non pas une religion. Mon frère et ma sœur, et toi qui m'écoutes ce matin, il n'y a pas deux manières de se préparer à rencontrer Dieu dans l'au-delà. Non, il n'y a pas d'autre alternative. C'est pour permettre à l'homme de se préparer que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a payé sa vie, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, le diable essaie de nous distraire. Essaie de nous faire comprendre que notre vie n'est que de la vapeur qui paraît pour un temps et disparaît pour toujours. Faux. Certes, cette image, nous la trouvons dans la Bible. Mais ce n'est pas dans le sens de l'annihilation de l'existence humaine, mais plutôt dans le sens de la brièveté de la vie, comme la vapeur qui paraît et puis disparaît. Ainsi nous naissons, et au bout de quelques années, et pour le plus robuste d'entre nous, au bout de 80 ans, nous partons. Vous voyez, la fumée, elle naît, elle ne reste pas une semaine au même endroit. L'avez-vous déjà vu? Vous voyez, elle part. C'est par rapport à la brièveté, à la fragilité, elle disparaît. La Bible nous dit que nous sommes des êtres avec une dimension d'éternité en nous, qu'un jour nous devrons quitter cette terre et nous en aller. Pour chacun de nous, le temps s'enfuit. Que nous le reconnaissions ou que nous ne le reconnaissions pas, eh bien, tôt ou tard, nous aurons affaire à l'éternité. L'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse sont des brefs chapitres de l'existence humaine. Un jour, tout cela sera derrière nous et nous passerons dans l'éternité. C'est maintenant, mes amis, que nous devons rencontrer Dieu comme sauveur. Car dans le temps, il est encore assis sur le trône de la grâce. Dans le temps, maintenant, il est assis sur le trône du salut. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et accepte que je vienne en toi. Alors tu auras la vie éternelle. Alléluia. Si nous ne rencontrons pas Dieu maintenant comme sauveur, alors qu'il est encore assis sur le trône de la grâce, nous le rencontrerons dans l'éternité comme juge. Là, il sera assis sur le trône blanc, ça sera trop tard. Ça ne sera pas pour nous dire oui, pour mettre nos bonnes actions et nos mauvaises actions dans une balance et voir de quel côté la balance va se pencher. Non! De l'autre côté, il est juge. Il demandera de compte à chacun de nous. C'est maintenant que nous devons le rencontrer dans cette vie comme sauveur. C'est pourquoi chaque moment de notre vie devrait être considéré comme une opportunité de nous préparer à rencontrer Dieu. Chaque moment, chaque temps qui passe. Le temps est précieux, mes amis. Voyez, le temps est précieux. C'est comme l'histoire, je terminerai par là. Pour donner l'occasion à ceux qui ne se sont jamais engagés avec le Seigneur de pouvoir le faire. L'histoire de cet homme qui marchait, c'était un chasseur avec sa fronde qui marchait sur la berge d'une rivière. Et pendant qu'il marchait, cet homme ramassa quelques pierres sur la berge et puis il s'est mis à chasser les oiseaux qui étaient perchés sur les arbres le long de la rivière. Une après une, toutes ces pierres tombèrent dans l'eau. Il lui en resta simplement une seule pierre. Il continua sa route et puis il rentra à la ville. Et de retour en ville, il passa dans un bazar. Vous voyez ces marchés qu'on trouve au Proche-Orient, hein, couverts. Il passa dans un bazar et là, il y avait un joaillier, ces gens qui travaillent les pierres précieuses. Il lui restait simplement une seule pierre. Et il s'arrêta un tout petit peu par curiosité pour voir un peu ce que cet homme avait fait. Mais cet homme avait l'œil et il remarqua cette pierre dans la main de ces chasseurs d'oiseaux. Il lui demanda, mais monsieur, montrez-moi un peu ce que vous avez dans votre main. Oh, il dit, oh, c'est une pierre que j'ai ramassée sur la berge d'une rivière. Bon, c'était pour chasser les oiseaux. Il dit, mais montrez-moi quand même. Il lui tendit la pierre. Quand l'autre prit la pierre et l'examina sous toutes ses facettes, il s'écria en disant, mais monsieur, mais vous avez là un diamant. Vous avez là une pierre précieuse qui vaut beaucoup d'argent. Il dit, quoi? C'est une pierre précieuse. Mais je n'en ai pas ramassé qu'une seule. J'en ai ramassé plusieurs, mais je les ai utilisées pour chasser les oiseaux. Et une après une, ces pierres sont tombées dans la... Pauvre de moi, si j'avais su que c'était des pierres précieuses, combien je les aurais gardées précieusement. Et je serais venu vous voir pour vous les vendre. Mais voilà qu'elles sont tombées dans les abysses et perdues à tout jamais. Eh bien, cette histoire, mes amis, nous montre combien de fois nous avons dilapidé le temps que Dieu nous a donné. Voyez-vous, combien nous n'avons pas été conscients de ce temps-là. Nous l'avons utilisé pour des choses futiles, pour des choses factices, voyez-vous. Nous nous sommes mis à poursuivre les plaisirs de ce monde, les choses de la terre qui sont éphémères. Et ce temps-là, eh bien, est tombé dans la mer de l'oubli. Mais il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur nous demande, par rapport au temps qui nous reste, à le gérer. Avec intelligence, avec sagesse, avec parcimonie, pour que nous puissions utiliser ce temps à nous préparer pour rencontrer notre Seigneur. Alléluia. Alors, mon frère et ma sœur, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu?
As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? Si tu ne l'as jamais fait, quoique tu aies une religion, même chrétienne, eh bien ce matin, celui qui est encore assis sur le trône de la grâce te tend sa main et t'appelle. Il te dit, viens à moi. Alors je vais lancer un appel, non seulement à vous qui êtes ici et qui n'êtes pas encore prêts à rencontrer le Seigneur comme sauveur, mais aussi comme juge de l'autre côté, mais je voudrais m'adresser également à tous ceux qui nous suivent via différents médias. Alors que nous avons nos têtes baissées, je vais faire un appel. Je vais demander à tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur vie. Tu t'es laissé distraire par les plaisirs. Tu as dilapidé ton temps comme cet homme avait dilapidé ses pierres précieuses dont il ignorait la valeur. Mais le peu de temps qui te reste encore, eh bien le Seigneur aimerait que tu l'utilises pour te préparer. Alors si tu veux recevoir le Seigneur, alors que tu ne l'as jamais fait, je te prierai simplement de te lever là où tu es. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Merci pour les personnes qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. N'hésitez pas, mes amis. C'est maintenant que nous devons rencontrer le Seigneur comme sauveur. Après notre mort, ça sera trop tard. Ça sera en juge. Car celui que Dieu a établi comme juge des morts et des vivants, mais pour le moment, il sauve encore. Pour le moment, sa grâce est encore là. Merci. Je vais prier pour tous ceux qui se sont levés. Alors que je prierai pour vous, eh bien, priez avec moi. Et je demanderai à l'Assemblée de se joindre à ma prière pour ce frère, afin qu'il puisse véritablement recevoir Jésus et commencer une nouvelle vie avec lui. Une vie marquée par la soumission, l'obéissance à Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. J'ai entendu ta parole ce matin. Et je me rends compte, Seigneur, que je ne suis pas encore prêt par rapport à mon éternité. Jusque-là, j'avais une religion dont j'étais convaincu, Seigneur, qu'elle me conduirait tout droit au ciel. Mais maintenant, tu viens de me parler. Je réalise que la religion est incapable de me sauver. Ainsi, Seigneur, je me tourne vers toi en cet instant. Et je te demande de venir dans ma vie. Seigneur, je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Pardonne ma vie de péché. Et reste désormais dans ma vie, en m'aidant, Seigneur, à vivre avec toi et pour toi. Merci, Jésus. Pendant que nous avons nos têtes baissées, je vais prier pour vous. Tendre Père, je voudrais te remercier pour toutes ces personnes qui ont compris la nécessité de se préparer à te rencontrer maintenant, Seigneur, comme sauveur. Ces personnes ont réalisé la nullité, Seigneur, de leurs pratiques religieuses. Ces personnes ont réalisé, Seigneur, l'incapacité des œuvres religieuses quant à les conduire vers toi, quant à les conduire au ciel. Et aujourd'hui, ces personnes t'ont accepté. S'il te plaît, merci de les avoir reçus dans ton ciel de gloire. Désormais, Seigneur, ces personnes ont la vie éternelle. Désormais, tu leur accordes le pardon. Désormais, ils marchent non pas selon le ressenti, selon le protocole établi par la religion, quelle qu'elle soit. Mais désormais, Seigneur, ces bien-aimés sont appelés à marcher avec toi. Merci Jésus de les aider jour après jour à se préparer, à marcher, à vivre avec toi pour finalement se retrouver pour l'éternité dans ton ciel de gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur.